Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour vous présenter cette édition d'Escale consacrée aux enfants et les conflits armés. Les violations à l'encontre des enfants dans le cadre des conflits armés ont atteint des niveaux sans précédent au cours des dernières années, avec 24 000 violations des droits de l'enfant constatées en 2018 dans les 20 situations de conflit que suivent les Nations Unies et plus de 12 000 enfants tués ou mutilés. Des lueurs d'espoir existent néanmoins, à l'instar de l'évolution de la situation en République centrafricaine, qui a conclu un accord de paix en 2019. Pour mieux comprendre cette évolution et les attentes en 2020, nous sommes allés à la rencontre de la représentante spéciale de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba.
Je pense que la chose la plus importante dans toutes les situations que nous couvrons, c'est d'avoir la volonté politique de faire une chose, de transformer une situation de la guerre en paix. Alors, il y a eu une volonté le 6 février 2019 avec un grand accord de la paix. Immédiatement, il y a eu des relâchements des enfants qui étaient en situation de conflit armé avec les groupes armés. Alors, la première chose qu'on a vue dans le terrain, c'est des milliers d'enfants relâchés des conflits et qu'ils veulent être réintégrés avec la société. L'autre chose qu'on a vue, c'est trois des groupes armés qui ont signé l'accord de la paix ont la volonté de faire un accord avec moi et mon bureau pour mieux protéger les enfants et pour arrêter toutes les violations contre les enfants. Alors c'est intéressant, trois groupes armés qui veulent signer l'accord immédiatement après ça. La troisième chose qu'on a vue, c'est une intérêt du gouvernement de la République centrafricaine de prévenir les violations contre les enfants en situation de conflit armé dans le futur. Alors, ils nous ont demandé de commencer un projet conjoint avec notre force dans le terrain, qui y compris de la mission de paix des Nations Unies et de l'UNICEF et de toutes les autres agences des Nations Unies, avec nous et avec le gouvernement pour faire un plan d'action national pour la prévention. Et la semaine dernière, j'ai envoyé un groupe technique à Bangui et aussi à Kagabandoro pour commencer le mapping, pour faire ce processus de prévention. Et quand il est fini, je pense qu'en mars, avec le gouvernement et tous les groupes armés, parce que tous les 14 vont les signer aussi, la communauté va les signer, les ONG vont participer de cet accord, et même les enfants qui sont en train d'être réintégrés dans la société aussi vont avoir une voix avec ce plan national de prévention. Mais quand ce plan est signé et fini, je pense que là, il y aura une grande opportunité pour faire une communication réelle, préventive, dans tout niveau de la société de la République centrafricaine pour identifier les violations contre les enfants, pour les prévenir, mais aussi pour renforcer la loi qui va criminaliser la conduite mauvaise des personnes et même des officiels du gouvernement.
Ça serait une grande prise de conscience?
Une grande prise de conscience accompagnée par une volonté de renforcer la loi pour criminaliser les violations contre les enfants en temps de guerre et que je pense va être aussi accompagnée par une meilleure compréhension des alternatives pour les jeunes personnes de la République centrafricaine. Ils doivent avoir alternatives de vie qui ne sont pas alternatives seulement liées à la force gouvernementale ou à les groupes armés.
Justement, on a vu qu'en République centrafricaine, malgré l'accord de paix, il y a quand même eu une recrudescence des violences. Alors, est-ce que dans ces cas-là, les enfants ont tendance à retourner dans les groupes armés? Quelles sont leurs options? Qu'est-ce qui leur arrive?
Oui, c'est la tragédie de notre vie, non? Et ce n'est pas seulement pour une recrudescence de la violence. Ce n'est pas nécessaire d'attendre une recrudescence de la violence. C'est seulement nécessaire de n'avoir pas des alternatives de vie. Alors, quand on relâche les enfants, et on a relâché beaucoup, des milliards d'enfants dans l'année 2018, et aussi une autre fois maintenant, cette année de 2019, on a vu que le processus de réintégration dans la République centrafricaine a un niveau des ressources humaines et financières qui ne peuvent pas absorber la quantité des enfants qui sont relâchés. Alors, on a seulement pu donner assistante temporaire, peut-être pour 6 mois, à la moitié des enfants qui sont relâchés. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Les autres retournent au village, ils n'ont rien, ils n'ont pas eu d'assistance financière ou éducative ou vocationnelle. Alors ils retournent à un autre groupe armé parce que c'est la seule chose qui leur donne une manière de vie. Et si ils ne vont pas de retour dans un groupe armé, ils vont commencer des groupes criminels propres. Et on a vu beaucoup dans la cité de Bangui, avec les quartiers les plus pauvres de la cité, qu'il y a beaucoup de gangs, qui sont des petits groupes de jeunes hommes et femmes, et même de petits enfants, qui se regroupent pour faire de la criminalité, pour s'en sortir. Alors, c'est fondamental qu'il y a une forme très sérieuse, on met d'argent, des forces, des personnels dans l'éducation vocationnelle aussi, et avec le renforcement de l'assistance psychologique post-traumatique que ces enfants, eux, les filles et les garçons,
Et pour les communautés aussi.
et aussi les communautés. Les communautés sont pauvres. Ils n'ont pas d'information. Ils ont perdu leur enfant. Alors, l'enfant, si on a de la chance, il revient à la communauté. Mais ils ne sont pas les sauveteurs de la communauté parce qu'ils sont des bouches en plus à donner à manger. Alors, ce sont un problème.
Et ils sont souvent rejetés aussi pour avoir été enfants
Exactement.
soldats.
Il y a le stigma. S'ils sont des jeunes filles avec des enfants, qu'ils retournent, ils sont violés, ils sont un enfant, la famille ne veut pas les maintenir. Alors, ils sont, si vous voulez, isolés de la propre communauté. Mais si on peut donner deux choses, d'assistance aussi psychologique et des ressources à la communauté pour recevoir ces enfants, c'est une chose. L'autre chose, c'est de convaincre la communauté, les autorités locales, les autorités régionales, les autorités nationales et l'industrie privée de donner du travail à cette personne, à la communauté et à les enfants. Et ça, c'est une chose que moi, j'ai déjà dit au gouvernement de le faire avec les plans de prévention nationale, d'avoir un petit côté de l'industrie privée et de l'effort pour la reconstruction nationale post-conflit qui demande beaucoup de travail, d'infrastructures dans les pays. Il y a beaucoup de choses que les gens et les communautés peuvent faire avec leur présente éducation pour les donneurs d'argent avec un travail propre. Mais à ce moment-là, ça n'existe pas. Cette connexion n'existe pas. Le peace building, la construction de la paix, ce n'est pas ajouté à l'assistance humanitaire temporaire d'une situation de crise. Et on doit faire le nexus.
Qui est un développement, en fait.
Exactement. Oui.
Donc en fait, 2020 s'annonce une année prometteuse pour la République centrafricaine.
Pour moi, oui, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir de plusieurs de la situation que j'ai l'honneur de travailler avec. Pour moi, le Soudan du Sud, même la Somalie, la République centrafricaine, et pour moi, Myanmar, et les Philippines. Dans tous ces cas, j'ai l'opportunité de voir qu'il y a quelques volontés politiques, même de les groupes armés aussi que de le gouvernement, pour faire les choses un peu différentes et pour mettre l'enfant au centre du processus de reconstruction nationale. Et j'ai beaucoup d'espoir. Comme j'ai espoir dans ces cas, j'ai beaucoup de préoccupations des autres cas. Je suis très préoccupée pour la situation dans l'Afrique de l'Ouest.
Justement, quelles vont être vos priorités en 2020?
Je pense pour moi la prévention, parce que je pense qu'il y a beaucoup de situations qui sont très mauvaises, qui ont la peur que j'ai, qu'ils vont être très graves dans l'année prochaine. Et si on ne les contient pas, on doit les faire la contention, la prévention, même pour maintenir le niveau de violence actuel.
Vous parlez de quelle situation?
Le Mali, fondamentalement le Mali, mais aussi l'impact régional de la situation au Mali. Et je suis très préoccupée de la situation à Burkina Faso. Il y a déjà 3 des groupes armés qui sont listés pour violation dans le Mali, qui opèrent dans le Burkina Faso. Il y a 2000 écoles qui sont fermées au Burkina Faso. Principalement, ce sont écoles pour les jeunes filles. Une situation très similaire à la culture de Boko Haram à la Nigeria. Je suis préoccupée de la violence au Cameroun, très préoccupée de la violence contre les enfants à la Libye. Et pour moi, ce sont des choses très, très compliquées et je suis très préoccupée de cette situation. J'ai aussi un peu de peur de la situation à l'Afghanistan, peut-être à l'Irak. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'efforts par des gouvernements qui sont très faibles et qui sont en train constant de changer. Alors, il ne peut jamais consolider les politiques publiques qui peuvent prévenir la violence contre les enfants.
Vous mentionnez l'Irak, on a vu récemment dans l'actualité, on a beaucoup évoqué la situation des combattants terroristes étrangers et de leurs enfants. Est-ce que votre bureau est impliqué dans cette question?
Comme tous les bureaux des Nations Unies, nous ne sommes pas les leads, les champions de cette situation, parce que je pense que tous les agences et les départements et les bureaux des Nations Unies ont avec une seule, nous avons un seul message. Tous les enfants sont victimes. Et c'est très important de voir les enfants, même les enfants qui sont les enfants des familles, des groupes terroristes. Les enfants qui sont associés avec des groupes terroristes, peut-être seulement parce qu'ils sont un relatif, le père, la mère, un frère, ils ne doivent pas être traités comme potentiels assassins. Et la seconde chose, c'est qu'on ne peut pas lâcher des petits enfants dans des camps de détention. Aucun pays avec la volonté de se responsabiliser pour l'éducation et les bienfaits de cet enfant. À l'Irak, c'est un peu plus préoccupant que dans la Syrie, parce qu'à l'Irak, il y a beaucoup d'enfants qui sont d'Irak, qui sont partis avec leurs parents pour faire la guerre à la Syrie. Maintenant, ils sont en train de retourner, être répatriés à l'Irak. Et l'Irak n'a pas les ressources économiques, financières ou même spirituelles pour permettre une bonne réinsertion de ces petits-enfants. Les autres pays, qui les enfants sont de la nationalité, les parents sont de la nationalité des pays européens ou asiatiques ou américains, il doit se responsabiliser. Une chose importante, c'est que tous les enfants du monde pensent qu'ils ont une identité, qu'ils ont le droit d'avoir une identité et qu'il y a un pays qui est responsable de donner tous les droits à cet enfant de cette identité, de cette nationalité. On ne peut pas laisser les enfants dans un monde qui n'existe pas.
Quel est le message que vous espérez pouvoir dire à la fin de 2020?
Que c'est possible de mieux protéger les enfants, même en temps de guerre. Que c'est possible de réintégrer les enfants traumatisés dans toutes les sociétés qui le veulent, d'une forme bénigne. Que c'est possible d'arrêter le recrutement des enfants. Et moi, je suis si sûre qu'on peut le faire.
Et c'est avec les paroles de Virginia Gamba que se referme cette édition d'Escale consacrée aux enfants et les conflits armés. Escale vous a été présentée cette semaine par Cristina Silvero avec l'assistance de Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.